France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Masnasavoy.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, psychanalyste, philosophe de formation, a choisi d'évoquer celui sans qui la psychanalyse, eh bien, n'existerait pas. Cité, conspué, vénéré, lu, relu et même souvent tordu, faut-il encore le présenter? Eh bien oui, et on va même commencer par l'écouter.
I started my professional activity as a neurologist.
J'ai débuté mon activité professionnelle en tant que neurologiste, essayant de soulager mes patients névrosés.
I discovered some important new facts.
J'ai découvert de nouvelles et importantes données à propos de l'inconscient dans la vie psychique.
The role of instinctual urges,
le rôle des pulsions,
so on.
Et ainsi de suite.
Out of these findings grew a new science, psychoanalysis.
De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse, une branche de la psychologie,
of treatment
ainsi qu'une nouvelle méthode de traitement des névroses.
I had to pay heavily.
J'ai dû payer lourdement ce coup de chance. Mon nom ?
Sigmund Freud.
Bonjour Sylvia Lippi.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne. Vous êtes de formation philosophique. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres. J'en cite deux. Sœur pour une psychanalyse féministe, coécrit avec Patrice Maniglier, paru aux éditions du Seuil. Et qui vient de paraître cette semaine, Freud, l'ingouvernable, aux éditions Stylus. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre la voix de Freud? Je signale que c'est la seule archive de Freud qu'on a, qu'elle a été enregistrée en 1938, donc un an avant sa mort, alors qu'il était en exil à Londres, au début, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale.
Bah, c'est toujours, bah, vous l'aurez un peu vu, il y avait beaucoup j'ai beaucoup d'émotions, comme vous pouvez voir. Et surtout, pour moi, voilà, ça fait remonter aussi l'émotion que j'ai eue quand j'ai décidé d'écrire un livre sur Freud, que c'est presque une entreprise impossible. Comment écrire sur les génies du 20e siècle?
Ah, c'est le génie du 20e
voilà,
siècle pour vous.
Un peu oui. Bon, d'abord, il est évidemment un grand auteur, mais c'est lui qui a un peu changé ma vie. Je veux dire, qui a permis que ma vie soit celle qu'elle est. Je veux dire, ça me touche selon plusieurs formes.
Ah oui, donc c'est pas que comment écrire sur un génie du XXe siècle, c'est comment écrire sur la personne qui a changé votre vie. C'est pas le même enjeu quand même, parce que bon, écrire sur un génie du XXe siècle pour lui rendre hommage, c'est vrai que c'est difficile, il faut être subtil, il faut être exhaustif, il faut être problématique, il faut être un peu critique aussi, hein, d'une certaine manière. Mais sur la personne qui a changé sa vie, c'est comme écrire sur sa mère, non?
Oui, bah oui, pourquoi pas.
Sur son père, là, du coup, mais...
Ah, mais je préfère ma mère. Mais disons que c'était vraiment, même pour moi, c'était un enjeu de faire quelque chose qui soit vraiment ma lecture de Freud. C'est mon Freud. Hein. Je dirais jamais que c'est les Freud où je n'ai pas essayé de faire un travail sous la forme de, encore une fois, d'essayer de traduire la pensée de Freud, mais c'est vraiment ce que Freud a changé dans ma vie, dans ma profession, c'est-à-dire aussi dans ma pratique en tant que clinicienne, qui sont les éléments, et même en tant que femme. Hein.
Comment vous avez découvert Freud? On va dire, je le dis tout de suite en fait pour les auditeurs et auditrices, que vous avez décidé de parler de psychologie des foules, ou psychologie des masses, ou psychologie de masse, ça dépend des traductions et analyses du mois, c'est le titre complet, un titre un peu long, c'est un texte passionnant qui est méconnu, qui n'est pas trop aimé par les freudiens, je dirais. Mais avant d'en venir au cœur de ce texte et pourquoi vous avez choisi ce texte, quand est-ce que vous avez découvert Freud? Vous aviez quel âge? Pourquoi vous avez ouvert un de ses livres? Et est-ce qu'il a changé votre vie dès la première lecture?
Alors, je dois dire que c'est un rapport pas simple. C'est-à-dire, quand je l'ai lu la première fois, au lycée, hein, ça faisait partie des cours de philosophie, n'était pas un de mes auteurs préférés.
Vous étiez en Italie ?
Oui, j'étais en Italie à l'époque.
On entend votre accent, je précise. Ouais.
J'étais en Italie et je ne sais pas, j'étais une grande passionnée de Spinoza, de Nietzsche, mais je ne sais pas, je n'avais pas été frappée par Freud. Après, je suis venue à Paris, où j'ai repris des études de philosophie, et justement, je tombe par hasard dans un cours de psychanalyse, et je tombe amoureuse de Lacan. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas direct. Donc, mon Freud était le Freud de Lacan. Bon, il l'est encore sous certaines formes. Et disons que pendant des années, j'ai lu les Freud de Lacan. Même dans mes études de psychologie, même je fais un doctorat. Bon, disons, Freud m'a toujours accompagnée, mais c'est toujours un peu les petits frères de Lacan. Voilà.
C'est marrant de le présenter comme ça, on devrait le présenter comme le père de Lacan, plutôt.
Non, pour moi,
dans l'ordre, c'est plutôt Freud qui invente la psychanalyse, Lacan qui la prolonge en France.
Comme dit Freud, l'inconscient n'a pas de temps. Donc vous voyez, là, les choses s'étaient un peu inversées. Et après, je me rappelle très bien, quand même, pendant mes études de psychologie, cette fois-ci, que je tombe sur ces textes, qui est « Psychologie des fous, l'analyse de moi », un test de 1921. Et disons, moi, j'étais à l'époque vraiment j'adorais Marx, ça a toujours été mon philosophe préféré. Et donc, évidemment, pour moi, c'était ce qui me plaisait de Marx, c'était le fait qu'on pouvait penser la philosophie appliquée, c'est-à-dire il y avait un acte immédiatement lié à la pensée.
Et donc, c'est un acte social, quand même.
Un acte social, collectif. Et disons, j'ai dit les choses un peu généralement, mais disons que c'est ça qui m'avait beaucoup plu en philosophie. Et après, en lisant ces textes de Freud, habitué toujours à penser les Freud, encore une fois, individuels, qui s'occupent de la singularité, de l'individu, j'étais pas habituée à l'idée qu'il y avait quelque chose de collectif si fort pour un psychanalyste. Et en lisant ces textes, évidemment, j'ai vu qu'il y avait une implication très profonde et une manière très particulière de penser les collectifs parce que c'était lié notamment au singulier. Ce qui donnait quelque chose de tout à fait nouveau pour moi pour repenser la question du collectif et du groupe.
Donc c'est intéressant, Sylvia Lippi, ça veut dire que c'est une question d'abord de philosophie politique, presque, qui vous a intéressé chez Freud, ce qui semble quand même contre-intuitif. Effectivement, on associe Freud à des problématiques très individuelles, c'est un des reproches d'ailleurs qui est fait par la suite à la psychanalyse, par Deleuze notamment, et Félix Guattari, Gilles Deleuze et Félix Guattari notamment, dire le roman familial, papa, maman, la petite sphère privée à trois. Donc c'est intéressant quand même que vous soyez entré dans Freud à la fois par Lacan, et par quand même cette dimension politique qu'on oublie,
absolument,
qu'on néglige, ouais, dans la psychanalyse.
Ça a été les premiers tests de Freud qui m'a frappé et qui m'a intéressé. Et d'ailleurs, c'est dans ces tests qu'il dit « la psychologie plus ancienne est la psychologie de foule ». Ce qui veut dire qu'on ne peut pas penser l'inconscient sans penser la question du collectif. D'ailleurs, Lacan dira plus tard, l'inconscient, c'est le collectif. Donc vous voyez les liens qu'il y a profondes et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire cette distinction. Je veux dire, les deux doivent être toujours pensés ensemble.
Ce qu'on a tendance à oublier, comme je le disais. J'aimerais quand même revenir sur une chose, Sylvia Lippi. Comment on peut tomber amoureuse de Jacques Lacan ?
Alors,
qu'est-ce qui suscite ça ? Je le précise parce que les textes de Jacques Lacan, ses discours, que ce soit quand on l'entendait à la radio, à la télé notamment avec son émission, c'est quand même pas du tout facile d'y entrer, c'est pas accessible, ça semble réservé à une élite, et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on fait à la psychanalyse, c'est un truc de petit bourgeois.
Bah, écoutez,
ça rejoint d'ailleurs la dimension de critique individualiste de la psychanalyse.
Disons que Lacan, pour moi, au moins mon expérience personnelle avec lui, qui a d'abord commencé par les textes, avant d'être psychanalyste, évidemment, j'ai d'abord lu avant, et j'ai fait mon analyse, évidemment. Mais disons, c'était notamment, j'ai trouvé qu'il y avait cette forme. Bon, je venais des études de philo, donc bien sûr, j'étais habituée à à des auteurs, plutôt auteurs masculins, parce qu'autrice, à l'époque, au moins, on en tout dit, voilà, j'en tout dit pas beaucoup, mais disons que j'étais habituée à la difficulté, mais quand on lit Lacan, j'ai toujours été fascinée par ces hors-sens. Il y avait quelque chose qui sortait de l'idée d'une compréhension rationnelle qui me faisait déjà, voilà, qui me rappelait beaucoup aussi mes sciences en analyse, non? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément qualifiable ou qui ne rentre pas dans une pensée rationnelle. Et j'ai trouvé que lui, il avait cette possibilité, cette capacité, ou peut-être inconsciemment, je ne sais pas, qui exprimait dans ses thèses. Donc, paradoxalement, moins je comprenais Lacan, plus il me plaisait. Et donc, je le sais aussi quand je lis Lacan, même encore aujourd'hui, il y a toujours des parties que je ne comprends pas. Et j'aime beaucoup par rapport à, aussi en tant que lectrice, de dire c'est très bien d'avoir cette possibilité de ne pas tout comprendre. Et lui, il me donne toujours quand je lis Lacan, j'ai ce plaisir-là d'abandonner, de me laisser aller à ne pas comprendre. Et de ne pas me forcer plus. Voilà.
Il y a quand même quelque chose qui vous tenait. Quand même, et ce n'est pas la dimension politique de Lacan.
Non.
Il n'y a pas de dimension politique chez Lacan, non ?
Il y a des tests politiques assez intéressants.
Oui, peut-être sur la loi ou...
Il y a des tests, mais je trouve que, surtout, surtout par rapport à la question du féminisme, dont on y reviendra peut-être tout à l'heure, je veux dire, je trouve que, voilà, les collectifs est toujours en... est toujours un peu méprisé, ou alors, voilà, ça fait partie notamment d'une dynamique masculine, phallique, centralisée.
Voilà, disons. Donc s'il y a une dimension politique chez Lacan, c'est plus celle-ci, une sorte de modèle qui n'est pas revendiqué, c'est-à-dire qu'il ne va pas écrire sur la politique, mais il va y avoir un modèle qui sous-tend ses théories, ses concepts, qui est celui-ci, en fait.
Exactement.
Très masculin.
Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les psychanalystes
lacaniens... C'est le reproche aussi qu'on fait, d'ailleurs.
Les psychanalystes lacaniens insistent toujours, dès qu'on pense aux collectifs, il faut toujours qu'ils pensent, alors c'est un mythe, c'est un idéal, ou alors c'est quelque chose lié vraiment à quelque chose de très masculin, très phallique, très... et en même temps, il dit très bien que ça fait lien social. Mais disons, il y a toujours l'idée que les singuliers seraient, plus importants que, disons, les collectifs. Quoique, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la phrase est l'inconscient, c'est les politiques, dans la logique du fantasme, qui laisse ouvert la possibilité qu'on puisse penser. Mmh. Mais lui, il n'a pas vraiment développé aussi, il dit dans son autre texte important, les collectifs et les sujets de l'individuel, non ? Ce qui fait penser qu'il y a toujours quand même un rapport fondamental, mais il n'y a pas une théorisation, disons, des masses, ou du groupe. Voilà.
Pas comme chez Freud,
comme
mais dans
chez
le
Freud.
Texte
Exactement.
Que vous avez choisi, Sylvia Lipis-Régirac. Ouais. Fais-tu tous les reproches qu'on fait à la psychanalyse, sa dimension individualiste, masculinisme, bon, j'y vais, petite bourgeoise, incompréhensible. Ouais. Vous avez découvert à quelle époque Freud et Lacan, et aujourd'hui on est en 2025, comment aussi vous l'avez redécouvert en fonction aussi des mouvements historiques, politiques, et comment vous ne l'avez pas abandonné, ce Freud, ou, alors on va pas parler de Lacan, mais c'est vrai que vous parliez de Lacan qui était peut-être plus problématique de ce point de vue-là, mais donc pourquoi vous êtes restée quand même attachée à Freud ?
D'abord, je suis restée parce que j'ai attaché à Freud, parce que je pense que vraiment, avec Patrice Maniglier, on écrit dans Sœur qu'il faut recommencer la psychanalyse, on ne peut pas la recommencer sans Freud. Et je n'aurais jamais continué à me définir psychanalyste si j'avais un mépris à l'égard de l'inventeur.
Voilà. Je suis sûre que c'est pas possible, ça, Sylvia Lipi.
Je pense que c'est, peut-être. Pour moi, ça serait impossible. Je veux dire, je m'appellerais d'une autre façon. Parce que c'est tellement lié, la psychanalyse est tellement liée à ce que Freud nous a, a théorisé et pratiqué, que c'est impossible. En plus, moi, ce que j'aime de lui, c'est vraiment son aspect. Le titre de mon livre le dit, il est ingouvernable. C'est-à-dire, on les retrouve toujours où on ne l'attend pas. Je veux dire, on veut les classifier, ces hommes bourgeois, viennois, d'une société victorienne complètement renfermée. Et lui, à l'intérieur de cette société, il fait une révolution en parlant de la sexualité, en écoutant les femmes. Et aussi, on oublie souvent, quand on dit la psychanalyse est une discipline majeure, on oublie que Freud était un juif qu'il devait descendre de son trottoir quand il rencontrait les médecins bourgeois viennois. Hein, ça, c'est mon ami Livio Boni, qui est un psychanalyste italien aussi, qui notamment a bien précisé...
Oui, il faut rappeler quand même les conditions de naissance. Hein, et on l'a entendu dans cette archive, d'ailleurs, qu'il a dû, il dit « j'ai dû payer le prix ». En fait,
exactement,
de cette découverte.
Exactement. Et donc, il était toujours contre-courant. Il défendait les femmes contre les médecins de son époque. Il défendait la sexualité à tout prix. Il avait, et là aussi, je veux dire, dans ses textes fondamentaux, il fait une analyse, parce qu'il ne faut pas oublier que Psychologie des foules, analyse des moi, est un livre de 1921, donc après la guerre. Et donc, Freud, il a quand même, disons, il a passé cet écueil important. Et il était juif, et ce qui était une position très très compliquée évidemment, et notamment il essaie d'analyser qu'est-ce qui constitue, disons, la constitution de la foule. Et il arrive en conclusion qui pour moi est absolument géniale, parce qu'on est habitué à penser comme s'il y avait la foule et, comment dire, ou alors la dictature, comme s'il y avait une sorte d'imposition, comme si les sujets étaient objets, non, d'une constitution politique, alors que là, c'est exactement l'inverse. Lui, Freud dit, c'est l'amour qui crée la foule. Et même les dictatures et même les fascismes. C'est un lien, et c'est quelque chose
un lien qui Trump dit a libidinal.
Bien compris. C'est un lien libidinal. Et puis il parle vraiment, vraiment d'amour. C'est tous les rapports entre identification et amour. Trump a bien compris ça et il les met en acte tout le temps. Je veux dire, les exemples, disons, des fascismes qui ne sont pas forcément des dictatures. Hein. Je pense que là aussi, Freud nous laisse comprendre que les liens fraternels peuvent très vite virer au fascisme. Et on n'a pas besoin d'une dictature, d'une imposition, disons, d'un être qui exerce les pouvoirs avec violence. C'est l'amour, ce qui est beaucoup plus compliqué.
On va écouter, Sylvia Lippi, ce texte, justement, un des textes que vous avez choisi et qui traite de cette question de l'amour, qui est complètement neuve, en fait, dans la politique. Mais avant ça, je précise que ce texte, donc vous l'avez dit, qui est paru en 1921, pose cette question, comment se forme une foule et que fait la foule au moi? Est-ce que vous pensez, avant qu'on écoute ce premier texte, qui est quand même très lisible, compliqué, complexe, mais lisible, audible, que quelqu'un qui n'a pas lu Freud ou qui a des a priori peut commencer par ce texte?
Écoutez, je pense qu'il peut commencer par ce texte, ou encore une fois, je pense qu'il devrait lire d'abord Malaise dans la civilisation, qui est un texte de 29. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est ça la psychanalyse, il faut s'habituer aussi à penser en dehors du temps chronologique.
C'est le temps de l'inconscient. On peut commencer par la fin, c'est ça.
Voilà, donc... Je conseille Malaise dans la civilisation et après Psychologie des foules, analyse des moi. Il va comprendre,
et Manon,
je suis sûre.
Et Manon, aujourd'hui, on va faire le contraire.
La psychologie individuelle est nécessairement tout aussi ancienne que la psychologie des foules. Car dès le début, il y eut deux sortes de psychologie, celle des individus en foule et celle du père, du chef, du meneur. Les individus de la foule étaient réunis par les mêmes liens que ceux que nous trouvons aujourd'hui, mais le père de la horde originaire était libre. Ses actes intellectuels étaient, même dans leur isolement, forts et indépendants. Sa volonté n'avait pas besoin d'être renforcée par celle des autres. En conséquence de quoi, nous supposons que son moi avait peu de liens libidinaux. Il n'aimait personne en dehors de lui, et n'aimait les autres que dans la mesure où il servait ses besoins. Son moi ne cédait rien de superflu aux objets. Au seuil de l'histoire de l'humanité, était le surhomme que Nietzsche n'attendait que dans l'avenir. Aujourd'hui encore, les individus en foule ont besoin de l'illusion d'être aimés de manière égale et juste par le meneur. Mais le meneur, lui, n'a besoin d'aimer personne d'autre. Il a le droit d'être de la nature des maîtres. Absolument narcissique, mais sûr de lui, et ne dépendant que de lui. Nous savons que l'amour endigue le narcissisme, et nous pourrions démontrer comment, par cette action, il est devenu facteur de civilisation.
Extrait de Psychologie des foules et analyse du moi de Freud, lu par Nicolas Berger. C'est extrait du chapitre « La foule et la horde originaire ». On se situe plutôt vers la fin du livre, parce que ce texte en compte une dizaine. Là, on est au chapitre 10 et on y entend bien cette idée qui apparaît beaucoup plus tôt quand même, assez, on pourrait dire, révolutionnaire, Sylvia Lippi, que ce qui lie les hommes entre eux. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, en m'écoutant le dire, c'est assez révolutionnaire et à la fois aussi banal. Mmh. Ce qui lie les hommes entre eux, c'est l'amour, c'est pas l'argent, c'est pas l'intérêt. S'ils se mettent ensemble, c'est pas uniquement par conformisme ou altération d'eux-mêmes, par mollesse, par facilité, on pourrait dire, mais par amour. En quoi c'est à la fois révolutionnaire, mais aussi quand même un peu banal de le dire comme ça, Sylvia Lippi?
Alors d'abord, oui, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un lien libidinal. Donc amour, c'est à la fois, c'est vraiment l'éros pour Freud. Hein.
Oui, alors je précise juste, parce que c'est un passage qui est vraiment très drôle dans le texte, parce que Freud s'adresse à ses détracteurs, il en a, on est en 1921, et il dit « Bon, j'ai parlé de libido, je vais le redire, on m'a attaqué là-dessus, on m'a dit que j'étais pansexuelle, pansexualiste, appelez ça héros si vous vous sentez plus érudit, si vous voulez briller en société. » Il dit « Moi, je continuerai à dire libido, et là, dans ce texte, amour. »
Exactement. Et donc, et surtout, je veux dire, là aussi, la question du pansexualisme, c'est vraiment central. C'est parce que pour Freud, le pansexualisme de Freud est important parce que c'est qu'il arrive à montrer qu'encore une fois, les sexuels n'est pas simplement, disons, dans les relations strictement, les coïtos de les relations strictement sexuelles, les symptômes éteints. Et aussi aux manifestations de la libido, par exemple. Les rêves est aussi une autre manière de représenter, dans quelque sorte, un lien libidinal. Et surtout, encore une fois, dans la foule. Hein. Donc, disons, ça devient vraiment une manière, et il a bien compris qu'il y a quelque chose qui passe par les corps, qui permet de constituer les liens les plus profonds. Ça, c'est aussi très proche de Marx, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on se met ensemble, c'est toujours les corps, l'affect. Hein. On ne se met pas ensemble pas intellectuellement. L'intellect n'a pas la force de créer des vrais liens.
Hein. Alors, c'est quoi? C'est de l'attraction, presque? C'est quelque chose de physique?
Là, dans les cas de la foule, intéressant, parce qu'au fond, c'est la libido que Freud appelle narcissique. Hein, que c'est, il y a plusieurs acceptions d'utilisation de ces termes, mais ici, c'est vraiment l'effet que les sujets seraient dépités, narcissiquement dépités, c'est-à-dire dans une sorte de faiblesse, dans une sorte d'impuissance, hein, les sentiments d'impuissance, et donc pour pouvoir, disons, se renarcissiser, il est obligé, encore une fois, d'investir libidinalement qui les chefs.
Pourquoi ils se sont dépités?
Les leaders. Alors, ça, c'est un point très important.
Parce que je resitue pour les auditeurs et auditrices, c'est que là, Freud, en gros, politique, essaye de penser, je le redis, comment se forme une foule, sur quoi elle repose. Ouais. En gros, il essaye de nous dire, voilà pourquoi vous avez tendance à vous mettre dans des groupes, et cette raison-là, c'est l'amour. Ouais. Mais on peut y aller par attraction, mais là, vous nous dites, Sylvia Lippi, que c'est parce qu'on se sent dépité. Dépité parce qu'on est seul?
En quelque sorte, j'arrive. En quelque sorte, les liens est fait, bien sûr, et d'ailleurs, il est dit dans les tests, il parle de la solitude. Hein, bien sûr. Mais c'est surtout par rapport à l'idée que le sujet est seul, parce qu'il est quand même face à ses traumatismes, il est face à ses questions, problématiques, ses symptômes, ses angoisses. Hein. Freud parle des détresses et d'impuissance. Mais encore une fois, n'est pas une impuissance liée à une sorte de pouvoir imaginaire. C'est vraiment l'impuissance qui est un peu caractéristique de l'être humain, qui n'est pas maître de lui-même. Spinoza nous a enseigné
et
beaucoup.
Et qui a besoin de pour se conserver lui-même,
exactement,
de l'aide des autres.
Et il a besoin des autres. Donc l'erreur, notamment, de l'être humain, de les faire sous la forme du narcissisme, vous voyez, donc ce que c'est quelque chose, et ça c'est le point le plus grave, disons, de la manière de la foule de se lier, disons, de l'individu qui s'est lié aux autres, c'est-à-dire qu'il est fait toujours en refoulant les pulsions qui sont toujours liées au traumatisme, c'est-à-dire en ne voulant rien savoir de ce qui ne va pas, et c'est là, au niveau de l'individuel, comme du collectif. Souvent, la politique est faite par « on ne va pas voir où il y a le problème hein, », même au niveau collectif, mais surtout au niveau individuel. On ne veut pas voir. Donc, le narcissisme sert pour renforcer les « moi ». Je suis forte à travers l'identification à un autre qui a de la puissance, mais je continue à ne rien vouloir savoir de ce qui m'angoisse, de ce qui
de ce me
fait
qui
me tomber,
impuissant.
De ce qui me rend impuissant.
Donc c'est intéressant, ça veut dire que là, Freud nous propose une forme de fiction, de contrat social d'une certaine manière, parce qu'il revient avec, il parle quand même de horde originaire,
oui.
Donc là il y a quand même une sorte de retour en arrière, de fiction sur pourquoi les hommes se sont réunis. C'est pas comme chez Rousseau uniquement pour la conservation, pour la liberté, pour être en sécurité, comme chez Hobbes pour la paix, enfin voilà tout ce qu'on connaît des théories du contrat social en philosophie, mais aussi pour ne pas être impuissant face à ce qui l'angoisse. Donc on s'allie avec les autres, mais en même temps, c'est une manière aussi de ne pas faire face à ce qui nous angoisse. C'est ça, c'est
absolument
une sorte de stratégie d'évitement.
Mais c'est très, très, très important ce que vous soulignez là, parce qu'effectivement, ce texte fait référence à un autre texte qui est Totem et Tabou,
ouais.
1914, et c'est où Freud écrit des plus importants mythes de la psychanalyse. Un, c'est l'Édipe, et il y a le mythe de l'ordre primitif qui est un dérivé, disons, de l'Édipe. C'est la foule jalouse du père, hein, qui possède toutes les femmes, dont la mère, décide de les tuer. Hein, et la, donc les frères, c'est une foule de frères. Hein, donc avant d'être une foule, attention, sont des frères. Les frères se mettent ensemble, ils les tuent, ils sont coupables, ils les mangent. Hein, donc il y a vraiment une sorte d'introjection du père et ils sont coupables de cette action. Et c'est sur la culpabilité qui s'est créé les liens sociaux. C'est pour là qu'il parle des civilisations. Civilisation,
oui, c'est le
culture,
dernier terme d'ailleurs.
Voilà, il faut l'entendre vraiment comme lien social. Hein, chez Freud, civilisation n'est pas forcément liée à l'idée d'un progrès. Il faut faire très attention, mais c'est vraiment l'idée de la société. La civilisation, c'est aussi la société.
Donc la société s'est fondée sur un meurtre.
Sur la culpabilité et sur un meurtre. Et c'est pour ça qu'encore une fois, à partir notamment des... Et c'est là qu'il... Voilà, c'est le mythe de la naissance de la loi. La loi qui interdit l'inceste et la jouissance sans limite. Hein? Donc, c'est pour ça que ce mythe est considéré civilisateur. Moi, civilisateur au sens qui fait lien social, c'est qui est vrai. Les sociétés occidentales sont fondées sur ces mythes. Et on voit aussi les déboires. Hein? C'est l'erreur pour moi de penser que ces méthodes et aux méthodes, disons, qui a fait des bonnes sociétés. Je veux dire, on connaît nos sociétés avec les injustices sociales. On connaît nos sociétés avec les problèmes écologiques, avec, je ne sais pas, les machismes, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a vraiment... des sociétés, Freud met aussi l'évidence, mais en évidence qu'il y a une société fondée sur la culpabilité et sur une loi fondée sur la culpabilité, quand même, ça fait problème. Voilà. On peut penser d'autres formes de faire groupe.
Mais on n'y est pas encore sur ces autres formes de faire groupe que vous avez repérées, Sylvia Lippi, et c'est ça aussi qui a changé votre vie, mais aussi la lecture de Freud que vous avez eue par la suite, notamment dans Psychologie des foules et Analyse du moi, c'est qu'il parle aussi, en fait, là, au début du texte, de la psychologie individuelle et de la psychologie des foules, en disant il y a deux sortes de psychologie, et c'est là où il distingue la foule du père ou du meneur. On voit qu'on est encore dans ce mythe originaire du père et de ses fils. Pourquoi il y a une psychologie différente du père ?
Parce que, encore une fois, je veux dire, les pères est vraiment un élément, moi je dirais, assez engombrant dans la psychanalyse. Hein, c'est-à-dire, ça nous agace un peu parce qu'il est parfois dans une position... on les considère souvent comme quelque chose qui vient régler. Hein, ça serait l'élément qui réglerait, notamment par rapport à cette idée du père mort, hein, qui crée la loi. Donc, si on a la loi, on est tranquille. Donc, on peut aussi créer des analyses en fondant cette question-là. Ou alors, c'est toujours les pères, encore une fois, ce qui s'est manifesté sous la forme du surmoi. Hein, donc, un idéal du moi qui devient surmoi, donc avec soit l'impératif de la loi, ou comme dira Lacan, c'est-à-dire aussi une loi qui peut aussi imposer des jouissances à limite à l'inverse. Il y a toujours cette double signification qui est une fois les pères qui créent la loi et un père qui invite à transgresser. Et c'est ce mythe de l'ordre primitif qui est fait comme ça, c'est-à-dire la loi est établie, mais ça n'empêche pas d'être transgressé. Donc on serait toujours dans une répétition où le père est tué et après il est de nouveau, il renaît de ses cendres, on peut dire. Oui, et c'est toute la mécanique de la névrose.
C'est-à-dire que c'est la problématique aussi de ce lien social, de la fraternité et du père. C'est que là, il dit, les individus en foule ont besoin de l'illusion d'être aimés de manière égale et juste par le meneur. C'est-à-dire que c'est... Alors déjà, pourquoi c'est une illusion? Et est-ce que c'est une illusion parce que justement, il y a toujours le risque, parce que culpabilité, parce que possibilité de transgresser la loi, que l'un d'entre eux veuille surpasser la masse et donc ne veuille plus avoir un moi qui est complètement aliéné par le père, mais veuille justement en fait avoir cette forme de moi du surhomme, c'est-à-dire un moi. Et alors, il faudra qu'on précise ce que c'est que le moi, Sylvia Lippi, mais d'abord quand même, il y a quand même toujours ce risque de transgression et donc que la masse veuille devenir le meneur. Il y a la rivalité, c'est un lien social fondé sur le possible effondrement permanent.
Oui, notamment c'est ce qui se passe souvent dans des groupes fondés avec cette modalité. Et je veux dire, la psychanalyse, les associations de la psychanalyse sont souvent... elles ont rencontré dans leur histoire des problématiques de ces genres, dans leur petite dimension. Mais disons que, bien sûr, et les pères, c'est toujours les problèmes que, quelque part, les pères morts, comme vous dites, peut toujours renaître de ses cendres. Et il peut toujours y avoir un autre qui se prend pour les pères. Les pères est toujours... Ça crée la rivalité. Je veux dire, il y a toutes les dynamiques que nous connaissons, je veux dire, dans les rapports de force qui se sont créés dans nos sociétés. Et Freud est très précis quand il décrit cette modalité, en sachant que, de toute façon... quand il y a même des formes de fascisme, l'idée n'est pas du tout que les personnes soient soumises au père, mais qu'elles sont aimées par lui. Et ce qui dit Freud aussi dans un autre chapitre très important, qui est la foule, l'Église, deux formes de foule, l'Église et l'armée, il parle des déserteurs. Et souvent, ça c'est très intéressant, parce que les déserteurs, c'est-à-dire quand est-ce qu'une foule s'est défait, ça peut se défaire, comme vous dites, quand il y a évidemment quelqu'un qui casse les groupes parce qu'il veut prendre, il veut de nouveau recommencer, recommencer ce travail des meurtres fantasmatiques ou réels du père, ou symboliques du père. Mais il y a aussi les déserteurs qui sont ceux, on parle au masculin ici, ceux qui décident qu'à cause de leur angoisse, ils n'y croient plus. Ils ne font plus part du groupe. Donc les déserteurs sont les vrais ennemis, en quelque sorte, du fascisme. Et c'est intéressant parce qu'il prend aussi un exemple de la guerre et en pensant, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale avec Mussolini en Italie, c'était un peu comme ça. C'était par rapport, les partisans étaient d'abord des singuliers. Donc c'est avec cette angoisse, les singuliers qui ne tiennent plus dans cette dynamique du groupe, qui y est cru ou pas, mais qu'il était dedans, il y a quelque chose qui les fait sortir à partir du singulier. Et là, on rentre vraiment dans les rapports entre singulier et collectif.
Est-ce que Freud est dans la déploration de ce type de formation de lien social, de foule? Au début du texte, il cite évidemment longuement Gustave Le Bon, qui est l'auteur d'une psychologie des foules, qui est paru en 1895, qui domine un petit peu ce domaine, ce champ de la recherche sur les foules. Gustave Le Bon est vraiment dans la déploration, dans la condamnation. Il parle de contagion, de suggestibilité, c'est-à-dire une forme d'altération de l'être, une domination des instincts, une altération de la raison. Freud, là, quand il nous parle de cette horde et des mécanismes à l'œuvre entre notre moi et le moi du chef, est-ce qu'il veut nous mettre en garde plutôt que déplorer et juger, condamner ?
Oui, moi je pense qu'il n'y a pas... Il est un analyste, Freud, un psychanalyste, ce qui paraît c'est ridicule de le dire, mais en même temps ça veut dire que vraiment on ne peut pas juger. Je veux dire, c'est vraiment ça fait partie de notre métier, qu'on n'a jamais, je veux dire, ce n'est jamais une critique, on ne peut pas la faire en quelque sorte. Donc lui, simplement, il met en garde, il décrit, il est en train de décrire des mécanismes qui sont... qui sont un acte dans la formation de la foule, et encore une fois, toujours avec un grand intérêt aussi au singulier, comment le singulier est impliqué dans la foule. Hein, c'est pas une analyse de foule, mais toujours de la foule, avec les moi, c'est-à-dire avec les sujets, et avec son image et son rapport à la problématique narcissique. Donc il y a tous ces éléments. Donc il est toujours en train de faire comme une analyse, vous voyez. Donc être en train de faire une analyse implique forcément que la condamnation n'est jamais primaire. Après, c'est à nous, quand on le relit aujourd'hui, peut-être, évidemment, vous avez raison, il nous aide à avoir quelque chose que peut-être on n'arriverait pas à avoir.
Une forme de critique.
Exactement. Aujourd'hui, on peut l'utiliser pour critiquer certaines formes, notamment des mises, comment dire, des formations du groupe. Mais je pense que c'est très différent la position de Freud en tant qu'analyste et des banques en tant que sociologue. Ouais.
On va écouter tout de suite un autre extrait de cette psychologie des foules et analyse du moi. Où Freud, dans un paragraphe que vous avez repéré, Sylvia Lippi, détecte, on pourrait le dire, une autre forme de lien social.
Quand l'une des jeunes filles d'un pensionnat vient de recevoir de celui qu'elle aime en secret une lettre qui suscite sa jalousie et à laquelle elle réagit par une crise d'hystérie, quelques-unes de ses amies, au courant du fait, vont alors attraper cette crise, comme nous le disons, par la voie de la contagion psychique. Le mécanisme est celui d'une identification fondée sur la capacité ou la volonté de se mettre dans une situation identique. Les autres aimeraient aussi avoir un rapport amoureux secret, et sous l'influence de la conscience de culpabilité, elles acceptent aussi la souffrance qui s'y rattache. Il ne serait pas juste d'affirmer qu'elle s'approprie le symptôme par compassion. Au contraire, la compassion naît seulement de l'identification, et la preuve en est qu'une telle contagion ou imitation s'instaure également dans des circonstances où l'on admet, entre les deux personnes, une sympathie préexistante bien moindre que celle qui s'établit habituellement entre des amis de pension. L'un des moi a perçu chez l'autre une analogie significative en un point. Dans notre exemple, la même disponibilité affective. Il se forme là-dessus une identification en ce point, et sous l'influence de la situation pathogène, cette identification se déplace sur le symptôme que l'un des moi a produit. L'identification par le symptôme devient ainsi l'indice d'un lieu de coïncidence des deux moi, lieu qui doit être maintenu refoulé.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de Psychologie des foules et analyse du moi, toujours de Sigmund Freud, paru en 1921. C'est un extrait du chapitre qui s'intitule « L'identification ». Sylvia Lippi, c'est vous qui nous l'avez indiqué. Ça pourrait passer pourtant un peu inaperçu à la lecture, mais là, dites-nous, expliquez-nous ce que se produit comme nouveau type de lien social. Voilà, Freud parle d'identification par le symptôme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe?
C'est, disons, les passages qui a permis à moi et Patrice Maniglier, au fond, de faire les livres sous la sororité et sœurs. Et c'est vraiment, il met en évidence une autre forme d'identité. Il est en train de parler de la formation du symptôme et il met en évidence dans ces passages une autre forme d'identification qui n'est pas faite sur le narcissisme, sur le renforcement du moi, sur l'idéal de l'autre. Il parle d'un groupe de filles qui sont dans un pensionnaire et il y a une crise, il y a une fille qui reçoit une lettre d'amour d'un amoureux et une autre fille est jalouse. Mais il y a, au fur et à mesure, toutes les filles sont prises par des affects. Elles ont une crise collective. Hein, il y a ce que Freud appelle dans ses tests une contagion psychique. Alors comment elle est faite?
Attraper cette crise.
Exact.
C'est quand même
exactement.
C'est génial et en même temps on pourrait mal l'interpréter. On pourrait dire bon bah Freud voilà il pense qu'on attrape une crise hystérique comme on attrape un rhume. Encore une fois il y a quelque chose d'un petit peu stigmatisant.
Ouais. Et en réalité ce qu'il nous montre là c'est qu'il y a quelque chose hein, qui, disons, il y a un lien déjà, il dit que l'identification par les symptômes est quelque chose qui est lié à un sentiment des, disons, des liens qui est inconscient. Donc déjà, ça nous intéresse, c'est-à-dire, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas quelque chose lié, encore une fois, au moi et au renforcement, mais c'est quelque chose de profond et de fort qui revient de l'intérieur. Et ce qui revient, est, à travers cette crise, est quelque chose de traumatique. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, quand on avait dit que dans les liens, les liens de la foule, les liens aux leaders, quelque chose de traumatisme est tout le temps refoulé. Hein, ce qui fera dire plus tard à Freud que c'est les problèmes du refoulement est un des problèmes de notre civilisation. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les liens est fait avec quelque chose, disons, de ces traumatismes refoulés, hein, donc, et qui fait lien, et qui revient, et qui crée notamment les liens entre les filles. Identification par les symptômes. Hein, parce que chez Freud, très important, ce qui est traumatique est profondément singulier, hein, donc pas partageable, mais ce qui est partageable, en quelque sorte, est les symptômes. Les filles ont une crise collective. Une crise collective, c'est une façon de dire, nous disons dans les livres sur la sororité, est un symptôme partagé. Nous avons pris dans les livres l'exemple des MeToo, hein, comme quelque chose du corps qui ne tient pas en place. Il y a les corps qui ne tiennent pas en place, et c'est là qu'on appelle une crise collective, mais qui a aussi la force d'une révolution. Et là aussi, c'est-à-dire, ces filles, en quelque sorte, ils parlent déjà de quelque chose, d'un traumatisme qui ne veut pas être refoulé. Malheureusement, les filles sont renfermées dans un pensionnat, donc ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, les femmes ont pu sortir du pensionnat et les dire à tout le monde. Donc, c'est ça la grande différence. Mais, disons, cet élément des Freud, de cette identification par les symptômes, est, pour moi, vraiment la découverte d'une autre manière de faire lien qui n'est pas basé sur le refoulement et la répression.
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le symptôme ne pose pas donc problème, mais au contraire, fait société.
Exactement.
Ça, c'est vraiment intéressant, parce que le terme de trauma, renvoie tout de suite à des maladies, à des problèmes qu'on devrait régler, auxquels on devrait remédier. Or, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut assumer le symptôme. Mais Sylvia Lévy, c'est quoi un trauma?
Les traumas, disons, c'est quelque chose que les sujets rencontrent dans son existence et qui marque, un arrêt et qui marque un changement, qui marque quelque chose de sa vie et qu'il ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment une position plus qu'un événement qu'on peut décrire, bien sûr, on peut d'un point de vue, disons...
C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un événement qui s'est produit
dès lors d'un accident, de l'agression. Et qui est lié aussi, Freud est très précis, il les définit par rapport au corps. Il y a un excès corporel quand il y a une expérience traumatique. Donc ce n'est pas les faits qui comptent, mais ce qui s'est passé au niveau du corps et qui s'inscrit au niveau inconscient et surtout que les sujets ne savent pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas les faits.
En général, un trauma se passe entre quoi, 0 et 11 ans, où il n'y a pas de date. Là aussi, l'inconscient n'a pas de temporalité.
Je pense qu'il n'a pas de temporalité. Moi, j'aime bien définir les traumas vraiment comme ce qui est traumatique, c'est de ne pas savoir. C'est la passivité absolue du sujet.
C'est l'ignorance.
Hein. L'ignorance, il n'est pas pouvoir dire rien de ce qui s'est passé. Encore une fois, je répète, mes patientes, je pense patientes au singulier, quand je pense à des personnes qui ont, par exemple, subi des traumatismes sexuels ou des abus, ils savent décrire les faits. Ce n'est pas un problème de ne pas dire ce qui est socialement ou juridiquement reconnu comme un traumatisme. Mais ce qui est problématique, c'est leur position lorsqu'il s'est passé. Donc, c'est ça qui est problématique. Voyez.
C'est-à-dire de ne pas dire ce que ça leur a fait précisément.
On ne peut pas les savoir avec des affects
compliqués.
Est-ce qu'on y arrive
à le dire, ou le but de la psychanalyse, ce n'est pas de parvenir à le dire, mais au contraire, en fait, presque de cultiver le symptôme pour vivre avec.
C'est exactement ça, c'est-à-dire les sujets les disent avec les symptômes. Mais encore une fois, les symptômes, s'il est toxique au départ, par exemple au début de l'analyse, il se transforme. Colette Solaire parle des symptômes oraux. Hein, nous en parlons aussi, et surtout quand les symptômes oraux est un engagement collectif, Bah, pour moi, c'est vraiment une belle forme des symptômes heureux. Hein. Disons, combien de mes patientes, grâce à l'implication d'un MeToo, ils ont pu vraiment s'en sortir,
donc,
entre
il faut,
guillemets.
Voilà, cultiver le symptôme. C'est contre-intuitif, ouais. Faut pas vouloir la guérison. Faut plutôt voilà, se dire, mon symptôme, c'est ça, il me fait souffrir. Mais je vais essayer en fait de le quoi, de le remodeler. Alors justement comment? Parce que dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que le lien social, il est presque pas décidé. Ouais. Les filles se retrouvent pas très en juste. Se disant, on va avoir ensemble très une juste. Crise de d'hystérie. C'est quelque chose de l'ordre de la contagion qui dépasse la volonté. Ce qui est contre-intuitif pour un lien social. Absolument. Un lien social peut se décider. Je peux décider à un moment donné de dire, je suis en couple avec cette personne. Il y a quelque chose qui est acté, même si au départ c'est un mouvement involontaire. Là, à quel moment la volonté intervient dans ce processus de transformation du symptôme, de faire lien social avec ce symptôme?
Ça, c'est très, ce que vous dites est très important parce que d'abord les symptômes, qui est toujours lié au trauma, hein, les symptômes et les traumas, en quelque sorte, c'est ce qui reste du trauma. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est si important, parce que c'est la trace précise et réelle de ces, du trauma, mais sans les mots pour les décrire. Hein, il se manifeste sous une autre forme. Et c'est l'ingouvernable, au fond. Hein. Donc on a affaire avec cet ingouvernable, mais ce que vous mettez en évidence qui est absolument important, c'est ces liens sociaux qui se créent. Moi, je dirais vraiment sans la volonté. Ou la volonté est postérieure. On ne peut pas. Les personnes, par exemple, qui ont participé au mouvement MeToo, mais moi aussi, d'une certaine façon, je suis aussi une femme, je ne peux plus faire autrement qu'écrire de la sororité. Je ne sais pas comment vous dire. C'est ou participer aux manifestations, ou essayer de parler avec une autre personne. Je veux dire, il y a quelque chose qui part du corps. Et ce n'est pas un hasard que Lacan disait que l'inventeur du symptôme n'était pas Freud, pour une fois, mais c'était Marx. Notamment parce que c'est quelque chose du corps qui se manifeste, encore une fois, quand, disons, quand les groupes, quand les singuliers et les groupes se rebellent, ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a une nécessité propre aux symptômes. C'est pour ça que j'aime bien penser un lien social qui part d'une nécessité qui a son origine dans l'inconscient et que ce n'est pas un mouvement intellectuel. Bien sûr, les mouvements.
Et s'il ne nous arrive rien, Sylvia Lippi, si moi j'étais pensionnaire avec ces jeunes filles et que je n'avais pas cet accès de larmes et d'hystérie, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis hors groupe?
Ouais, je pense que
c'est possible.
On peut rester hors groupe, bien sûr. Hein, je veux dire.
Mais on peut se sentir exclu, on a envie de faire partie du groupe aussi, va vous voyez.
Mais si vous avez de faire partie du groupe, je pense qu'il y a quelque chose qui vous poussera d'une façon absolument singulière à être partie de ces groupes. Vraiment, je prends toujours MeToo. Chacun y est, ou chacune y est à sa façon. Certains font des manifestations, certaines parlent en
d'autres
public.
D'autres refusent d'y croire aussi. Hein.
D'autres refusent d'y croire, d'autres écrivent. Je veux dire, il n'y a pas, c'est ça la beauté de ces mouvements, hein, qui n'est pas un mouvement en réalité, qui c'est un phénomène. Mais disons, notamment, ça nous permet, alors que dans les groupes, disons, dans la fraternité ou dans la dérive fasciste de la formation du groupe, il y a quand même des codes et des manières. Encore une fois, les narcissismes étaient nous ensemble. Ici, l'amour a tout à fait une autre forme. C'est beaucoup plus désorganisé, c'est beaucoup plus désordonné, mais notamment parce que les singuliers sont toujours mis en place. Nègre aurait dit une multitude. Voilà. C'est le philosophe peut-être qui a mieux décrit ce que j'appellerais la sororité. C'est-à-dire, la multitude n'empêche jamais les singuliers de se manifester. Donc, la fille qui reste toute seule, si elle veut faire partie du groupe, elle le sera à sa façon. Hein, il trouvera une manière de l'être.
La sublimation des pulsions est un trait particulièrement saillant du développement culturel. Elle rend possible le rôle si important des activités psychiques supérieures, scientifiques, artistiques, idéologiques, dans la culture. Si l'on cède à sa première impression, on est tenté de dire que la sublimation est avant tout un destin auquel la culture contraint les pulsions. Mais on fera mieux d'y réfléchir à deux fois. Enfin, et ceci semble le plus important, il est impossible d'ignorer dans quelle proportion la culture est construite sur le renoncement pulsionnel, et combien elle présuppose précisément de non-satisfaction, répression, refoulement, que sais-je encore, de puissantes pulsions. Cette frustration culturelle domine le vaste domaine des relations sociales entre les hommes. Nous savons déjà quelle est la cause de l'hostilité contre laquelle ont à lutter toutes les cultures. Elle posera de lourdes exigences à notre travail scientifique, et nous avons là à donner beaucoup d'éclaircissements. Il n'est pas facile de comprendre comment on fait pour retirer à une pulsion sa satisfaction. Cela n'est absolument pas sans danger. Et si l'on ne compense pas cela d'un point de vue économique, on peut se préparer à des perturbations graves.
Extrait du malaise dans la culture ou dans la civilisation, mais on choisit le terme du traducteur Dorian Astor, un autre texte de Freud, c'est le troisième chapitre, et on retrouve ce que vous disiez, Sylvia Lippi, dans ce texte, à savoir que, effectivement, la société repose sur un refoulement des pulsions, toute la question étant comment, en fait, refouler ces pulsions qui peuvent être destructrices, tout en ne créant pas une autre forme d'agressivité à cause de ce refoulement. Ce qui rejoint en fait la question du symptôme qu'on évoquait avec le lien social de ces jeunes filles.
Et disons que dans ces textes, d'ailleurs c'est intéressant parce que Freud parle de la sublimation en termes négatifs, c'est-à-dire les efforts pour sublimer, parce que pour Freud la sublimation implique les renoncements au sexuel, donc à la pulsion sexuelle et donc à l'éros en quelque sorte. Donc il y a quelque chose de social et encore une fois les renforcements du moi dans la sublimation, les, disons, à travers les noms, etc. Et donc c'est là, il montre les problèmes encore une fois du refoulement de la pulsion, un refoulement de la pulsion qui est toujours quelque chose de l'ordre du désir qui s'y manifeste avec une relation avec le traumatisme. Donc c'est vraiment la thèse principale de Freud. Attention à ne pas vouloir aller regarder ce qui ne nous plaît pas. Voilà. Donc il dit que les sociétés sont fondées notamment sur le fait de ne pas regarder ce qu'il y a d'horrible, ce qu'il y a d'insupportable et vraiment d'inacceptable de notre société. Et une dernière chose, donc encore une fois, l'idée c'est que encore une fois, la frustration de la pulsion, c'est-à-dire encore une fois mettre les limites, bloquer les désirs, cette idée de pouvoir, en quelque sorte, faire quelque chose avec nos affects et nos passions, hein, ça on dirait vraiment du Spinoza, il dit c'est impossible. Donc il faut compenser économiquement, affectivement, il faut d'autres formes sexuelles, libidinales, qui permet au sujet de penser une certaine satisfaction.
En fait, il faut repenser le lien social avec nos symptômes, nos pulsions, au lieu de vouloir justement créer du lien social qui masque.
Qui empêche et qui bloque. Donc c'est pour ça que nous parlons...
Ça, c'est la grande leçon aujourd'hui à retenir de Freud, même politiquement en fait.
Moi je crois que ça s'appelle symptôme collectif. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir vivre les désirs et la pulsion à partir de l'engagement collectif. C'est-à-dire, n'est pas refoulé, mais faire survenir.
Mais là encore, est-ce qu'on décide de ne pas refouler ?
Je crois que non, on ne décide pas. Mais il faut, si on prend là l'enseignement de Freud, c'est-à-dire, on peut se laisser aller. On les voit parfois, MeToo, on les voit dans des mouvements qui sont très spontanés. Et on a beaucoup à apprendre, je pense, de ces mouvements. Parce qu'ils nous permettent notamment de voir comment la pulsion trouve des modes, des solutions qui sont inattendues, contingentes et efficaces.
Oh, I hate you. Oh, how I try to hate you. I get better every time you run through my mind. Between love and hate, there's a little thin line. And I'm trying to hate you right out of my mind. Oh, I hate you. Each time I cry, I hate you. Little drops of anger fall from my eyes. You said that you love me. Tell me, how could this fool be so blind? And I'm trying to hate you right out of my mind.
Cette cette chanson de Jerry Lee Lewis, I Hate You, pour introduire cette séquence de fin d'émission. Sylvia Lippi, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, donc l'amour que vous portez à Freud, et l'amour, d'ailleurs il en a été question dans ces textes, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vraiment vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Hegel. D'ailleurs, je me dis, c'est trop triste de mourir sans avoir lu Hegel. C'est toujours un de mes problèmes. Mais en même temps, je me dis, tant pis un peu. Parce que...
On peut aimer lire des œuvres qu'on n'aime pas, par exemple, voilà. Paradoxalement.
Mais je trouve toujours des excuses pour dire l'année prochaine. Non, en même temps, je l'ai un peu fréquenté, toujours encore à travers Lacan, qui a été en revanche un grand lecteur et s'est beaucoup inspiré d'Hegel. Et notamment, c'est d'Hegel qui vient sa conception du phallus. Donc c'est principalement pour ça que c'est pour moi un point que j'attaque sous plusieurs formes. J'attaque pas les phallus en lui-même, j'attaque la centralité.
Vous pouvez, hein, si vous voulez.
J'ai dit j'attaque la centralité de cette question pour la psychanalyse jusqu'aujourd'hui. Je veux dire, tout passe par les phallus. Et disons que c'est Hegel qui, à travers vraiment un coup de génie de Lacan quand même, il transforme les pénis, il lui fait faire... un Aufhebung, c'est-à-dire un déplacement, une substitution, selon des traductions. Et le pénis devient le phallus, c'est-à-dire du petit organe sexuel ou imaginaire, ou voilà, les petits morceaux du corps, en devient un élément symbolique, civilisateur, voilà.
Mais attendez, à quel endroit Hegel parle du petit pénis?
Ah non, il ne parle pas, mais c'est Lacan. Donc, Hegel que je critique principalement, c'est vraiment tout. Bah, après, je pourrais revenir sur Hegel, mais disons cette idée, notamment de l'Aufhebung, de cette façon de dépasser tout en conservant, voilà.
Et ça, la dialectique.
La dialectique, disons, c'est toute une manière de penser les relations, les relations et de penser aussi l'existence et l'immanence qui se détruit à travers cette
processus. Il y a le phallus, mais il y a aussi la lecture du maître et l'esclave. On pourrait dire que Lacan a beaucoup repris ça de Hegel.
Exactement, la lecture du maître et de l'esclave, c'est encore sa fameuse phrase, les désirs de l'autre est fondé là-dessus, alors qu'encore une fois, mon origine spinoziste me fait penser que le désir est plutôt une force qui est moins l'effet d'un effet, c'est moins l'effet d'un autre, même si c'est une formule très compliquée, mais il faut peut-être la repenser à partir de la question des pulsions qui permet une autre lecture du désir, moins...
À partir du moi, en fait, de son moi.
Je dirais plutôt les sujets, peut-être.
Ah oui.
Mais encore une fois, c'est plutôt les corps désirants. Voilà. Je dois être vraiment sincère. Donc, vous voyez, dans les corps désirants, la dialectique est très loin. Ah, c'est vraiment très loin. Donc,
donc on pourra lire Hegel, mais avec l'idée de pouvoir critiquer son usage du phallus, du petit pénis, je retiendrai moi cette expression.
Voilà.
Merci beaucoup,
merci à vous.
Sylvia Lippi. De vous, on peut lire qui vient de paraître Freud, l'ingouvernable aux éditions Stylus. Vous développez cette réflexion sur les pulsions. C'est vraiment passionnant. Et puis, Sœur aussi, pour une psychanalyse féministe, coécrit avec Patrice Maniglier aux éditions du Seuil. Et pour lire Psychologie des masses ou des foules, et analyse du mois, le texte est disponible aux éditions du Seuil dans les écrits philosophiques et littéraires de Freud. Un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger, à la réalisation et à la lecture des textes, et à Edouard Rubinstein à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.